Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Eh bien, comme tous les mercredis matins, on se retrouve pour Cœur de patrimoine, mais aujourd'hui, vacances oblige. C'est une émission un petit peu particulière. Cœur de patrimoine vous accompagne et vous propose de réentendre quelques-unes des interventions les plus marquantes des dernières semaines. On va notamment s'intéresser aux stratégies de capitalisation. Ce sera avec Sandrine Kilici. Et puis, on abordera la thématique du climat en matière d'investissement grâce à Antoine Dumont chez Ecofi. Et on parlera aussi un petit peu assurance vie. On vous expliquera comment démembrer un contrat. Là, ce sera avec les bons offices de Tallinn Melkonian chez De Groof Petercam. Mais tout de suite, place à Sandrine Kilici chez Norman Kay.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on commence donc en accueillant Sandrine Kilici. Bonjour Sandrine.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être au rendez-vous pour Norman Kay, son ingénierie patrimoniale. On va parler fiscalité, je le disais, histoire de voir un petit peu dans cette période politique importante, comment est-ce qu'on peut coudre au mieux sa stratégie patrimoniale. Alors, on sait que finalement, il n'y aura pas de hausse de flat tax pour les revenus 2024, qu'il n'y aura pas non plus cette contribution différentielle sur les revenus, mais tout reste à l'étude, hein, on a envie de dire, et pour 2025, rien n'est joué, c'est ça ?
Exactement, tout reste à l'étude, et puis on a quand même l'impression que finalement, on va repartir quelque part de la base de la copie qui avait commencé à être rédigée fin 2025. Alors, il est fort probable que l'on retrouve cette fameuse contribution différentielle sur les hauts revenus. Alors, pour rappel, qui est-ce qu'elle concerne? En réalité, elle va concerner les personnes qui perçoivent des revenus relativement importants, puisqu'il faut deux choses. D'abord, être assujetti à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ce qui implique d'avoir un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros lorsqu'on est une personne seule ou 500 000 euros lorsqu'on est une personne qui est soumise à une imposition commune. Mais en plus de cela, en fait, on y est assujetti lorsqu'on a un taux moyen d'imposition inférieur à 20%. Alors, ça veut dire quoi? Les gens, évidemment, qui sont visés là derrière, ce sont évidemment les personnes qui bénéficient essentiellement de revenus soumis à la flat tax. Parce que la flat tax, en fait, c'est un taux d'imposition donc qui est de 12,8% d'impôt sur le revenu, auquel on va ajouter les fameux 4% de CEHR en taux maximum. Et donc, là, on va se retrouver avec un taux d'imposition de 16,8%. Et là, ce que l'on veut, c'est qu'en réalité, ce taux moyen d'imposition passe à 20%. Donc en réalité, on se retrouverait donc avec 20% d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur le revenu, en réalité, auquel on va ajouter 17,2% de prélèvements sociaux. Donc on se retrouverait avec un taux d'imposition minimum de 37,2%.
Mais ça concerne une frange très particulière des contribuables. On ne parle pas là de la flat tax, entre guillemets, en elle-même. Celle-ci, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut redouter que ces 30 qui avaient été un peu sanctuarisés par Emmanuel Macron prennent un peu de plomb dans l'aile?
On en entend parler, hein. C'était déjà le cas en fin d'année. Là, ça revient comme un espèce de serpent de mer. Et l'idée, là, il y a des arbitrages. Est-ce qu'on l'augmente de 3 points? Est-ce qu'on l'augmente de 5 points? Et effectivement, le sujet, c'est que là, c'est toute personne qui percevrait des revenus de capitaux mobiliers subirait cette hausse de la flat tax et pas seulement les hauts revenus. Donc du coup, imaginons qu'on ait une augmentation de 3 points. En réalité, on passerait effectivement de 30% à 33%, et si j'ajoute la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, je passe à 37% d'imposition sur mes dividendes. Étant précisé quand même que 37%, ça n'est pas rien, parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que lorsqu'on parle de dividendes, ce sont des revenus qui ont déjà subi l'impôt sur les sociétés à 25%. Et cette augmentation de la flat tax, quand je vous disais qu'elle vise toute personne qui perçoit des revenus de capitaux mobiliers, en réalité, alors c'est tout à fait juste, mais sachant qu'elle n'impacterait pas nos fameux contribuables de tout à l'heure qui ont des hauts revenus, parce que les deux vont se cannibaliser.
On rappelle, hein, augmentation de 3 points, pas de 3%. Hein. Il y avait eu dans l'espèce de maelstrom de l'Assemblée, quelqu'un qui dit on augmente de 3%, c'est pas bien grave. Non, c'était de 3 points. Hein.
Exactement.
C'est beaucoup plus que 3% en réalité. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des stratégies aujourd'hui, Sandrine Kilici, qu'on peut mettre en place finalement pour essayer de moins être exposé ou de limiter un petit peu notre exposition à ce genre de choix politiques ?
Alors en fait, bon, déjà évidemment avec tous les atermoiements qu'il y a eu en fin d'année dernière, inutile de préciser que nombre de contribuables ont pris leurs précautions. Donc ça s'est traduit par des distributions importantes de dividendes en fin d'année dernière. Donc, une fois qu'on a dit ça, on se dit que quand même les recettes attendues sur cette hausse de fiscalité risquent d'être beaucoup moindres que ce qui avait pu être envisagé. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et ensuite, en réalité, eh bien derrière, on en revient toujours au même principe. Capitaliser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plutôt que de détenir un portefeuille titre en direct, eh bien on va aller chercher plutôt à le structurer dans une assurance vie, dans un contrat de capitalisation, ou pour les très très gros patrimoines, en réalité à l'intérieur de holding patrimonial, ce qui fait que dans tous ces outils-là, si on ne rachète pas ou si on ne distribue pas, il n'y a pas d'impôt.
Les capitaux restent en fait dans l'enveloppe, dans la formule choisie, entre guillemets.
Exactement.
Encore que, certains disent, même là, on pourrait... c'est ça, il y a des idées de certains géotrouve-tout fiscaux qui se disent, on va aller aussi taper ces fameuses enveloppes ou dispositifs.
Exactement. Et donc là, on voit revenir... Ça aussi, c'est un serpent de mer qu'on a pu voir surgir dans certains rapports de think tank. Ça a été effleuré l'année dernière. Et puis là, on a carrément une proposition de loi sur un impôt minimum sur le patrimoine. Alors là, attention, hein, ça ne vise vraiment que les très, très gros patrimoines. Pour être assuré... Enfin, si jamais c'était voté, hein, pour être assujetti à cet impôt, il faut détenir un patrimoine net global de plus de 100 millions d'euros. Hein. Donc, ça vise pas tout le monde.
Familles...
On est bien d'accord. Hein. Ça doit viser à peu près 4000 personnes en France. Donc, c'est pas, voilà. L'idée ici, c'est quoi? C'est de dire, finalement, le montant de l'impôt sur revenu de ces personnes auxquelles on va ajouter l'impôt sur la fortune immobilière, plus la fameuse contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, plus la CSG, plus la CRDS, si l'ensemble de ces impôts représente moins de 2% de la valeur du patrimoine, bien le différentiel sera un impôt à reverser.
D'accord.
Et en fait...
De toute façon, on passe le rasoir de 2%.
Voilà, exactement. Mais parce qu'en fait, on voit bien l'idée qu'il y a derrière... Ce qu'on vise, donc, c'est ces fameuses familles, c'est, comme ils disent, ultra riches, qui souvent, en fait, ont leur patrimoine qui est détenu via des énormes holdings patrimoniales, qui ne distribuent pas forcément de revenus, et en réalité, qui sont, toujours pareil, hein, d'après ce qu'on peut lire, gorgées de plus-values latentes, qui ne sont jamais réalisées parce que transmises de génération en génération. Et en fait, via une telle imposition, l'idée aussi, c'est d'imposer de manière détournée, de capter par l'impôt la plus-value latente.
On est bien d'accord que les caisses sont vides, qu'on cherche des moyens de l'inventivité fiscale pour remplir un petit peu les caisses. Malgré tout, s'il y avait un message qui était ressorti de l'élection d'Emmanuel Macron, c'était l'espèce de révolution fiscale, du fait qu'on avait une certaine stabilité, que les investisseurs, parce que lorsqu'on parle de ces grandes familles, ce sont aussi, et peut-être j'ai envie de dire surtout, des investisseurs, des gens qui tiennent des entreprises, qui font aussi marcher cette économie française. Et toutes ces fortunes, en fait, avaient choisi de rester ou de revenir en France parce que il y avait cette forme de stabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, en repartant dans un gros maelstrom, on risque pas, finalement, de revenir à nos anciennes lubies et d'avoir cette espèce d'exil fiscal, entre guillemets.
En fait, c'est toujours la peur que l'on peut avoir face à cette augmentation de la fiscalité, parce que justement, ces fameuses familles qui sont visées, effectivement, sont des grandes familles d'entrepreneurs.
Qui peuvent bouger.
Et puis, qui, elles aussi, sont susceptibles de, enfin, l'entreprise est susceptible de subir aussi, vous savez, cette contribution exceptionnelle aussi sur les bénéfices. Donc, en fait, ça fait beaucoup de choses. Bon, ensuite, on va voir ce qui sera voté, voté. 2%, c'est quand même très important sur une valeur de patrimoine. Peut-être qu'il y aura un volant de négociation sur le taux, en réalité, à voir. Mais il faut être assez vigilant. Et souvent, ce qui est assez perturbant, c'est quand on lit, notamment dans le cadre de la proposition de loi qui a été faite sur cette imposition minimum sur le patrimoine, mais même ce que peuvent rédiger les think tanks, ils expliquent que l'imposition sur le patrimoine n'a jamais été un facteur de délocalisation. En réalité, c'est faux. C'est vraiment faux. Et c'est voilà, c'est ça qui gêne quand même. Il faut faire attention à ne pas faire fuir nos entrepreneurs.
Bon, je pense qu'on n'aura pas fini d'en parler. Merci en tout cas beaucoup, Sandrine Kilici, d'être venue pour Norman Kay, nous en parler en ce début d'année. À très bientôt.
À très bientôt.
Sur Radio Patrimoine, où on continue notre voyage au cœur de votre patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et après ce panorama des marchés, on va rentrer dans une thématique justement de marché, d'investissement, grâce à Antoine Dumont. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup de nous avoir rejoint, directeur de la distribution et des partenariats d'Ecofi. Et je le disais en préambule, on va s'intéresser à l'ESG, entre guillemets, à ces investissements socialement responsables. C'est comme ça qu'on les appelle. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà, pour planter un petit peu le décor, des grands enseignements du GIEC sur le climat, sur la façon dont finalement ces questions peuvent influencer la façon d'investir des épargnants.
Alors la façon d'investir d'une part, mais aussi la façon de voir le monde dans lequel nous sommes. Le GIEC, les derniers rapports sont implacables. On sait que l'activité humaine contribue à l'accélération du réchauffement climatique. Alors le GIEC, c'est important de savoir que c'est pas... Ils ne mènent pas dans leur coin des travaux de recherche. C'est une instance onusienne qui a pour objectif de compiler les travaux de recherche qui ont été publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture. Et on a aujourd'hui 99,96% des études qui convergent sur le fait qu'il y a une responsabilité humaine. Et le rapport du GIEC, le précédent, notamment du groupe 1, nous dit sans détour qu'on a déjà augmenté de 1,2 degré le réchauffement climatique depuis la période pré-industrielle. Et 1,2 degré, c'est assez compliqué à percevoir avec ses sens, parce qu'on a des variations de température parfois importantes, au sein d'une journée. Mais si on prend un petit peu de recul et on remonte, alors je propose de remonter, Cédric, un peu plus loin, il y a 22 000 ans, on était en 20 000 avant notre ère, et on était à l'apogée de la dernière ère glaciaire. Il faut bien savoir qu'à cette époque, l'Europe, pour prendre cet exemple, était recouverte de steppes et de toundra. Vous aviez jusqu'à 3 km de glace au-dessus des pays scandinaves. Les niveaux de la mer étaient 120 mètres plus bas. Et entre moins 20 000 et moins 10 000, où on sort de cette période de glaciation, on a eu un réchauffement moyen sur 10 000 ans de 4 à 5 degrés. Donc quand on parle de 1,10 000 ans. Sur 10 000 ans. Et là, on a sur 170 ans 1,2 degré de réchauffement.
Donc on a déjà fait un peu plus du quart.
Quand on parle d'un mur climatique, on est vraiment d'un point de vue très visuel sur un mur climatique. Et la difficulté, c'est que les trois quarts de cette dérive climatique proviennent des énergies fossiles sur lesquelles le monde thermo-industriel repose.
Alors quand on rentre dans ce monde de la gestion et de l'ESG, on va dire, on entend pas mal de mots. Et notamment, il y a un vocable qui revient dans pas mal de discours, dans pas mal d'études, dans pas mal d'articles. C'est celui de double contrainte carbone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'on parle de double contrainte carbone et qu'est-ce que ça a comme impact finalement sur ces stratégies?
Alors évidemment, c'est clé, hein, la double contrainte carbone, c'est le fait d'être prise en étau entre le tarissement géologique en amont, tarissement des énergies fossiles, et la dérive climatique en aval, le fait de brûler des énergies fossiles. Sur le premier sujet en amont, on sait que les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon, sont des énergies de stock, ce sont des résidus de vie ancienne qui ont mis entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de millions d'années à se constituer. Et comme tout stock, quand vous tapez de façon croissante ou constante dans un stock, vous atteignez un pic au bout d'un moment. Et l'Agence internationale de l'énergie, à cet égard, a sorti un rapport en 2018 disant que nous avions dépassé le pic du pétrole conventionnel en 2008. Depuis, le pétrole a continué d'augmenter jusqu'à atteindre un plus haut en novembre 2018 grâce au pétrole de Rochemer et au sable bitumineux. En aval, on vient d'en parler, c'est la dérive climatique qui est très importante et qui est intenable à moyen, long terme. Ça, c'est quelque chose qui est absolument évident. Et la difficulté de cette double contrainte carbone, c'est qu'elle réside essentiellement sur la consommation sans cesse croissante des énergies fossiles. Il faut bien voir qu'entre 1800 et aujourd'hui, les énergies ne se sont jamais substituées les unes aux autres. On a eu la biomasse, après on a eu le charbon, puis le pétrole, puis le gaz, puis l'hydroélectricité, puis il y a le nucléaire et les nouvelles énergies renouvelables, mais elles ne se sont jamais substituées les unes aux autres.
On n'a jamais remplacé, oui, effectivement, on a continué à chauffer au bois chez certains.
Exactement, on n'a jamais remplacé, et surtout, c'est un point essentiel, c'est que les énergies fossiles dominent encore très largement de la tête et des épaules le mix énergétique mondial. Et ça, évidemment, c'est clé, parce que l'énergie, en physique, c'est ce qui permet de quantifier la transformation d'un système. Et donc l'énergie qu'on utilise aujourd'hui, c'est comme si l'humanité avait démultiplié sa puissance musculaire par un facteur de 200. Et aujourd'hui, la grosse difficulté, ça va être de transitionner pour réduire cette dépendance aux énergies fossiles à cause de cette double contrainte carbone, à cause de la contrainte en amont et la contrainte en aval.
Pour autant, il y a des tas d'initiatives quand même qui se mettent en place. On a l'impression qu'on prend conscience des choses, y compris chez nos dirigeants. Il y a des Green Deal, il y a des Repower UE, enfin bref, il y a des tas de choses. En quoi est-ce que ça influence la façon dont on investit?
Alors, ça influence grandement la façon dont on investit pour une raison très simple, c'est que ça offre un cadre, une visibilité aux entreprises. Il faut bien voir que ce plan Green Deal ou ce plan RepowerEU, ce sont des plans qui sont arrivés à un moment où on s'est rendu compte que nos économies étaient vulnérables. Et notamment, on a vu l'épisode Covid, on a eu l'épisode guerre en Ukraine avec l'invasion de la Russie. Ces épisodes ont très, de façon évidente, mis en avant le fait que nos modèle à flux tendu, sans redondance, sans substitut, enfin c'est véritablement ces chaînes de valeur qui ont été étirées au maximum, nous ont rendus vulnérables. Donc aujourd'hui, on a ces grands plans qui notamment ont pour objectif de regagner en autonomie stratégique et notamment sur la production d'énergie. Il faut bien savoir qu'en Europe, on n'a pas du tout les mêmes sujets qu'aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le premier producteur de pétrole au monde. L'Europe importe 97% de son pétrole, 90% de son gaz et 50% de son charbon. Donc nous, on doit absolument investir pour réduire nos dépendances aux énergies fossiles. Et donc ce cadre, ces cadres-là, sont pour nous quelque chose d'extrêmement important parce que ça nous permet de nous projeter et de réinsérer la notion de long terme quand on investit dans les sociétés.
Et du coup, où sont les opportunités aujourd'hui dans ce monde qui devrait devenir durable ?
Alors quand on regarde le monde, la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui, on a dit que c'était un monde qui reposait essentiellement sur des énergies fossiles. Donc il paraît assez évident que pour réussir à limiter le réchauffement climatique, alors évidemment les accords de Paris entre 1,5 et 2 degrés à horizon 2100, les 1,5 ça va être compliqué à tenir, mais on sait très bien que dans ce monde-là, il va falloir réduire nos dépendances aux énergies fossiles. Et donc il ne faut pas être manichéen sur la croissance ou la décroissance, il y a des pans de l'activité qui vont devoir décroître, et il y a des poches de croissance qui vont être extrêmement solides de notre point de vue. Ça peut être l'efficience énergétique, ça peut être la mobilité bas carbone, la gestion des flux dans les villes, ça peut être également les matériaux de construction qui vont avoir une herméticité thermique plus importante, les énergies renouvelables, de l'amont à l'aval, la gestion des déchets, la valorisation de l'eau. Il y a tout un tas de secteurs qui peuvent être extrêmement, et qui de notre point de vue vont être extrêmement porteurs dans les années à venir, parce qu'ils répondent véritablement à un enjeu très important.
Mais ces valeurs, Antoine Dumont, c'est ce qu'on appelle finalement les valeurs vertes. Et si on regarde un petit peu, elles ont quand même considérablement, je vais peut-être pas dire souffert, mais eu un petit peu de difficulté en bourse ces derniers temps. On peut imaginer que ça se reprenne parce que c'est inévitable.
Alors je pense que c'est important de dissocier le fait qu'elles aient souffert en bourse du fait que, d'un point de vue très fondamental, ce sont des sociétés qui, pour la plupart d'entre elles, continuent à afficher des fondamentaux solides.
D'accord.
La raison pour laquelle ces valeurs ont baissé, c'était à partir de novembre 2021, un moment où les banquiers centraux remontent leur taux d'intérêt pour juguler l'inflation. Et vu que ce sont des sociétés qui sont typées croissance, elles sont très sensibles au taux d'intérêt. Donc on a eu une baisse des valorisations, des multiples de valorisations qui a été assez nette, mais là c'est assez conjoncturel dans un contexte économique très particulier et un contexte économique qui est en train d'évoluer. On voit notamment ces taux qui devraient rentrer dans un moment plus raisonnable. En tout cas, on a plus de visibilité sur ces taux d'intérêt.
Mais du coup, quand on a un fonds qui compte ces valeurs-là, il faut quand même le prendre en compte. Et ça pourrait être facile tous les jours de tenir une valorisation de fonds, même si, effectivement, on est persuadé que l'avenir est devant nous.
Alors, il est important, sans doute, de réinsérer la notion de long terme dans les allocations, de dire que lorsqu'on achète...
De dire qu'on n'investit pas pour 6 mois, qu'on est là...
On n'investit pas pour 6 mois, et surtout, de dire une chose importante, c'est lorsque l'on achète une action en bourse, on achète aujourd'hui pour demain. Autrement dit, on achète la capacité de la société à générer de la croissance dans le futur. C'est ça la chose essentielle. Et on sait de façon certaine qu'à long terme, le fondamental se révèle. Autrement dit, que le cours boursier finit dans la durée par converger vers la capacité qu'ont les sociétés à générer de la croissance. Et la question qu'on se pose, mais où sera la croissance dans un monde qui va devoir réduire sa dépendance aux énergies fossiles? Bah, la réponse qui est la nôtre, c'est que la croissance va se situer dans les secteurs et dans les entreprises que l'on porte dans nos portefeuilles qui répondent à ces grands enjeux.
Alors, on va pas faire de réclame, mais c'est intéressant tout de même de se plonger dans la façon dont on fabrique aussi ces supports qui permettent aux investisseurs de venir sur ces thématiques. Vous avez chez Ecofi deux fonds sur ces thématiques climatiques. Vous avez Agir pour le climat et Smart Transition. Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà? Et puis nous dire aussi un petit peu quels sont les indicateurs qu'on regarde pour les piloter.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur deux fonds qui vont aborder l'investissement socialement responsable de façon très différente. On a un fonds de solution, c'est le fonds Ecofi Agir pour le climat. Quand je dis fonds de solution, c'est que c'est un fonds qui cherche à investir dans des sociétés qui apportent des solutions concrètes pour répondre aux grands enjeux, et notamment de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Donc sur un fonds comme celui-là, on embarque des biais sectoriels qui sont assumés et qui sont forts, ce qui fait que Ecofi Agir pour le climat a connu des périodes de très nette surperformance par rapport à son indice entre sa création en novembre 2018 et fin 2021, période justement où les taux
ça a été
moins facile évidemment, et donc une deuxième période qui était plus compliquée. On vient de le dire. Là, on est sur un fonds donc de solutions qui a ces biais-là. À côté, chez Ecofi, on a un autre fonds sur la zone euro qui s'appelle Ecofi Smart Transition, où là, on va aborder l'investissement d'un point de vue transition, tout est dans le titre, où on cherche à investir dans des sociétés qui vont réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Mais on a beaucoup moins de biais, et on a d'autant moins de biais que c'est un fonds quantitatif, où l'objectif est d'investir, de répliquer la performance du marché action de la zone euro, mais en y apposant une double exigence. Premièrement, notre exigence extra-financière avec notre méthodologie d'analyse extra-financière qui s'appelle PRISM, et deuxièmement en investissant dans des sociétés qui respectent les accords de Paris et la trajectoire 1,5 degré.
Est-ce qu'on peut juste regarder un petit peu dans l'un ou dans l'autre et peut-être illustrer pour qu'un épargnant se rende compte finalement de ce que ça veut dire un produit de transition ou un produit qui agit sur le climat?
Si on regarde par exemple sur le fonds Ecofi Agir pour le climat, on est vraiment sur des secteurs qui apportent des solutions. Je l'ai évoqué précédemment, efficience énergétique. Dans l'efficience énergétique, on a notamment des acteurs en portefeuille. Je pense à une société comme Waga Energy, dont l'objectif finalement est d'aller récupérer le méthane émis par les décharges, avec pour objectif de le réinjecter dans le réseau de chauffage urbain. Donc aujourd'hui, on sait très bien que le méthane, c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, 86 fois plus puissant que le CO2 par unité de masse sur une période de 20 ans, et donc un pouvoir réchauffant très important. Waga Energy, ils vont avoir cette solution très concrète. Donc typiquement, c'est le genre de société qu'on va avoir sur la partie solution. Sur la partie transition, on a véritablement cet objectif d'avoir des sociétés qui réduisent leur dépendance aux énergies fossiles, mais on peut en avoir dans différents secteurs. Donc on va aborder, c'est pas un fonds qui va être un fonds de conviction, au sens stock picker, c'est un fonds quantitatif. Donc là-dessus, c'est une approche très différente. Ce sont les exigences en amont, plus l'algorithme à l'aval, qui a pour objectif de répliquer notre indice, qui compte, ce qui en fait un fonds qui a cœur de portefeuille sur la partie action, parce qu'on prend un risque relatif par rapport à notre marché le plus faible possible.
Comment est-ce que, quand on est particulier, quand on est épargnant, comment est-ce qu'on peut intégrer ces enjeux dans la gestion de son patrimoine? Et surtout, est-ce que c'est être un peu altruiste, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a des bénéfices concrets qu'on peut en attendre?
Je pense que c'est très important de l'intégrer en se projetant comme un investisseur à long terme sur la partie action. Et donc à long terme, je le redis, la croissance de demain, selon nous, va davantage se situer autour des secteurs qui, d'un point de vue pragmatique et physique, à cause des flux physiques sous-jacents qui se tarissent et à cause de la dérive climatique, qui vont se situer vers des secteurs qui apportent des solutions concrètes. Donc là-dessus, on a une visibilité, en tout cas, on estime que ces secteurs-là vont dégager un chiffre d'affaires plus important, un pricing power important pour ceux qui ont un actif, une solution qui leur confère un avantage compétitif, donc des marges plus élevées, donc du cash flow, du free cash flow, et à terme, un cours boursier qui devrait s'apprécier. Et donc la façon dont l'investisseur particulier, en fonction de sa sensibilité, peut intégrer ce type de fonds, c'est de mettre un curseur en se disant « quelle est mon exposition sur ces thématiques-là » Mais d'ailleurs, il y a aussi un point important, c'est que même pour un investisseur qui serait moins appétant à toute la thématique d'investissement socialement responsable, c'est un contrepoids naturel dans son allocation.
C'est-à-dire
qu'il va être exposé sur des secteurs qui vont être différents. Donc des catalyseurs de performance qui vont être différents d'une exposition plus généraliste. Donc peut-être que dans ces fonds-là, on va pas être investi sur la tech, on va pas être investi sur d'autres secteurs qui ont très bien performé au demeurant en 2024, mais on va être investi sur des secteurs qui embarquent et qui intègrent des catalyseurs de performance, des leviers de performance à long terme qui sont très puissants. Et donc, en avoir un pourcentage dans son allocation, ça fait partie d'un exercice de diversification classique que tout investisseur devrait faire.
On vous sent, Antoine Dumont, très convaincu et c'est assez mobilisateur. C'est vrai que ça devient essentiel, mais il y a toujours un peu la question de l'œuf ou de la poule. Est-ce que finalement on parle de l'ESG parce que toutes les maisons se sont mises à proposer des produits ESG, ou est-ce que les maisons se sont mises à proposer des produits ESG parce que les clients attendaient des produits ESG ? En clair, comment est-ce qu'on fait, quand on est convaincu comme vous semblez l'être, pour accompagner cette nécessaire transformation, y compris de l'épargne ?
Ça, c'est
dans le temps qui vient, depuis 2021.
Vous avez mille fois raison. Je pense que le point déjà clé chez Ecofi, c'est que c'est pas un effet de mode. Ecofi, on est une société qui existe depuis 1972, très engagée dans la finance durable, première société à avoir adopté dans le monde de la finance le statut d'entreprise à mission. Donc c'est quelque chose qu'on intègre totalement.
C'est
l'ADN d'Ecofi. Que d'autres sociétés, de plus en plus, intègrent ces solutions d'investissement, pour les raisons que j'ai évoquées, parce que des contrepoids dans l'allocation, pour les clients, j'entends, parce qu'on est sur des catalyseurs de performance à long terme qui devraient être puissants, évidemment, c'est quelque chose qu'on accueille de façon très enthousiaste, hein, c'est évident.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu partager cet enthousiasme et cette conviction. Antoine Dumont, donc, pour Ecofi.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et comme promis, on se retrouve donc pour poursuivre dans notre thématique, dans notre dossier Assurance Vie. Cette semaine, on accueille Taline Melconian. Bonjour Taline.
Cédric.
Merci beaucoup d'être au rendez-vous, responsable de l'ingénierie patrimoniale pour De Groff Petercam. Donc, Assurance Vie, on l'a réexpliqué, un contrat qui permet de gérer ses actifs, son patrimoine avec et le fonds euro et les unités de compte qui concerne soit le souscripteur, soit ses ayants droit avec la clause bénéficiaire. Et donc, ce produit patrimonial, totem un peu de la gestion de patrimoine, il permet beaucoup de choses et notamment d'être démembré. Alors d'abord, rappelons peut-être la donnée de base. Qu'est-ce que c'est qu'un démembrement ?
Alors, le démembrement, c'est la situation dans laquelle deux personnes ont des droits différents sur un même actif. Faites attention à ne pas confondre démembrement avec indivision. Dans le cas d'une on va prendre l'exemple d'une maison, parce que là, c'est plus facile à visualiser. Dans l'exemple d'une maison, vous pouvez être en indivision, par exemple, à la suite d'un décès ou lors de l'acquisition, et vous êtes à 50-50, ouais. Et vous avez tous les deux les mêmes droits sur le même bien. Dans le cadre d'un démembrement, qui peut également être issu d'une succession, là, vous avez deux personnes qui ont des droits différents. L'usufruitier, lui, il a le droit d'utiliser le bien. Donc, pour un actif immobilier, il a le droit d'y habiter ou de le mettre en location. Et le nu propriétaire, qui est le réel propriétaire des murs. Donc, le démembrement, c'est ça. C'est quelque chose qui existe depuis le code civil romain de l'époque.
Et ce démembrement, donc, comme vous l'avez dit, ça se comprend bien sur une maison, sur un immeuble, on va dire, mais on peut l'appliquer à des produits financiers et on peut notamment l'appliquer à ce contrat d'assurance vie, c'est ça ?
Oui, c'est ça, parce qu'on est toujours très inventif, hein, et donc vu que cette enveloppe est vraiment un outil qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plébiscité, on a été très inventif et on l'a mis en place, ce démembrement, dans le cadre de l'assurance vie. Alors, il y a deux façons de démembrer, de concevoir le démembrement dans l'assurance vie.
Non, parce que franchement, le contrat d'assurance vie, moi, je ne peux pas aller l'habiter. Donc, je me dis un petit peu, comment est-ce qu'on va faire pour le démembrer ?
On va en parler tout de suite. Un peu compliqué, en effet. Donc, soit on démembre à la sortie, c'est-à-dire que c'est la clause bénéficiaire qui est démembrée, soit on fait une souscription, dès le départ en démembrement.
Alors, commençons tiens par la souscription, puisqu'on va commencer par le départ, entre guillemets. Dans quel cas est-ce qu'on peut démembrer une souscription ?
Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, on est déjà en démembrement, donc où on va se mettre dans une situation de démembrement. Et pourquoi est-ce qu'on imagine donc de souscrire un contrat d'assurance vie en démembrement ? Parce qu'on a envie d'assurer une autre personne derrière. Donc, par exemple, là où ça s'imagine assez facilement, assez aisément, c'est avec l'allongement de la durée de la vie. Vous voyez, il y a de plus en plus de personnes qui héritent à 50, 60, 65 ans, c'est-à-dire pas nécessairement à un âge où ils ont besoin. Et donc, on peut imaginer qu'un grand-père de son vivant donne la nue propriété à ses enfants et qu'ils décident ensemble de souscrire un contrat d'assurance vie pour pouvoir transmettre à la génération d'après, c'est-à-dire les petits-enfants.
D'accord.
Donc, le souscripteur, serait le grand-père usufruitier, l'enfant nu propriétaire, et les bénéficiaires seraient les enfants du nu propriétaire.
D'accord, c'est donc un schéma
oui.
qui permet quasiment de le faire à trois, là, pour le coup, ok. C'est hyper simple à faire ou ça demande une certaine application? Parce qu'il y a quand même pas mal de schémas patrimoniaux, Taline, qui paraissent un peu simples quand on les explique comme vous le faites, mais qui, dans la pratique, demandent de ne pas se tromper.
Alors,
notamment, soyons clairs, fiscalement, parce qu'il y a toujours le fisc qui rôde.
Sur la forme, c'est très simple. Une clause bénéficiaire, c'est assez simple. Une clause bénéficiaire, c'est une clause que vous mentionnez sur le contrat. Vous rédigez mes enfants, vous rédigez exactement ce que vous voulez. Donc, sur la forme, c'est très simple. C'est quelque chose que vous pouvez faire par manuscrit ou sur papier libre, vous l'envoyez à l'assureur. Donc, la forme, très simple. Sur le fond, il faut être quand même un peu attentif. Déjà, sur qui vous allez bénéficier, désigner en tant que bénéficiaire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une situation de souscription en démembrement, ce dont on parle là, le grand-père, il a déjà donné la nue propriété à ses enfants. Donc, bien évidemment, dans la clause bénéficiaire, il faut pas écrire que c'est ses enfants, que ce sont les enfants qui sont les bénéficiaires, parce que sinon c'est totalement inefficace.
Bien sûr.
Donc il faut en effet faire très attention à la rédaction de la clause bénéficiaire. Aussi pour prévoir le cas qui arrive malheureusement assez rarement, mais imaginons que l'usufruitier, le grand-père, survive à son enfant nu propriétaire. Eh bien, vu que l'assuré c'est le nu propriétaire, le contrat va se dénouer. Donc peut-être que lors de la mise en place, ce grand-père qui est usufruitier, il avait besoin de ses revenus. Donc il y a quand même pas mal de petites choses auxquelles il faut faire attention. Et donc c'est pour ça que sur la forme, c'est très simple, mais sur le fond, il vaut mieux quand même toujours...
Et bien évidemment, il y a des réponses à toutes les questions.
Bien sûr, parce qu'il faut tout anticiper dans les clauses bénéficiaires, comme dans un contrat d'assurance vie classique d'ailleurs, même sans parler de démembrement, il faut toujours prévoir... plusieurs hypothèses. On ne sait pas, lorsqu'on la rédige à un instant T, on ne sait pas comment ça va se dérouler au moment du dénouement.
Et puis, je fais une petite virgule. N'hésitez pas à relire régulièrement vos clauses bénéficiaires parce que nos vies évoluent, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on laisse dormir bêtement au fond d'un tiroir.
Alors, bien évidemment, à chaque fois qu'il y a un changement de situation patrimoniale ou familiale, il faut impérativement re-regarder les clauses bénéficiaires. Et en règle générale, c'est bien tous les 3-5 ans quand même de jeter un coup d'œil. Je vous le redis, au fait, on vit de plus en plus longtemps. Donc, si vous voulez, là où à un instant T, ça vous semblait pertinent de désigner vos enfants, eh bien, peut-être que 10 ans, 15 ans plus tard, vous vous dites, mais mes enfants, au fait, ils n'ont plus besoin,
autant sauter
une génération. Donc, toujours bien regarder ces clauses bénéficiaires.
On rappelle, vous nous avez dit, on peut démembrer à deux niveaux, soit au moment de la souscription, soit dans la clause bénéficiaire. Qu'est-ce qu'il en est maintenant, deuxième volet donc de cette clause bénéficiaire démembrée?
Alors la clause bénéficiaire démembrée est une situation qui est totalement différente. C'est-à-dire que là, vous avez une personne qui, avec ses actifs, a souscrit à un contrat d'assurance vie et il a un objectif un peu différent de protection. C'est-à-dire qu'au fait, il veut protéger une personne dans un premier temps, mais pas pour autant lui passer l'intégralité des actifs de façon définitive. Donc, je vais vous donner des exemples qui vont tout de suite vous faire comprendre quel cas on vise. Par exemple, monsieur et madame sont mariés. Madame a souscrit un contrat d'assurance vie. Madame souhaite, bien entendu, protéger son conjoint, mais elle souhaite que les actifs à terme aillent à ses enfants. Donc, ça peut être logique de désigner comme bénéficiaire le mari pour l'usufruit et les enfants du propriétaire. Mais il n'y a pas que ce cas-là. Ça peut être également le cas d'une personne qui aurait, par exemple, un enfant vulnérable, qui se dit, mon enfant vulnérable, il va avoir besoin de revenus pour pouvoir financer son train de vie. Mais à son décès, je voudrais quand même que ça reste dans la famille et que l'argent retourne, dans l'hypothèse où il n'aurait pas de descendance, que l'argent retourne vers les neveux ou vers d'autres personnes. Donc tout ça se réfléchit à l'avance. Et une fois de plus... J'insiste sur ce sujet, avec le rallongement de la durée de la vie, de l'espérance de vie, on peut même imaginer un démembrement de clauses bénéficiaires sur différentes générations. Donc là, on n'est pas dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure où le grand-père et le père souscrivent ensemble. Le grand-père a bien souscrit tout seul. Il a son contrat à 30 ans, il a 90 ans et puis il en discute avec ses enfants qui ont 70 ou 65 ans et il dit mais en fait est-ce que ça n'a pas plutôt du sens qu'on passe directement la nue propriété aux petits-enfants et vous les enfants vous gardez uniquement l'usufruit puisque
inverser le schéma traditionnel.
Et une fois de plus l'objectif à chaque fois c'est de gagner on va dire un passage à la case impôt.
Et là aussi, même attention sur la façon dont on rédige, parce que les clauses bénéficiaires, il faut que ce soit très, très bien rédigé.
Oui, là, il y a pareil. Donc sur la forme, pareil, tout à l'heure, papier libre, comme vous le voulez, vous l'écrivez. Mais sur le fond, il faut être assez attentif à différentes choses. Prévoir déjà les situations où l'usufruitier ne serait plus là, où le nu propriétaire ne serait plus là. Prévoir aussi la possibilité que l'usufruitier puisse renoncer au profit des nus propriétaires. Par exemple, je reprends la situation de monsieur, madame et les enfants, donc un schéma familial assez classique. Il se peut très bien que le mari ou l'épouse, au moment de récupérer l'usufruit du contrat d'assurance vie, se dit bah, « finalement, ma foi, ça n'a pas beaucoup de sens que je le récupère, je vais le laisser directement aux enfants ». Donc prévoir toutes ces possibilités-là, prévoir
c'est aussi ce qu'on appelle la clause à tiroir, hein, souvent oui, la clause ça. Au lanier, entre guillemets.
Et aussi, ce qu'il faut, qu'il convient de prévoir, là, c'est vraiment spécifique à la clause bénéficiaire démembrée. C'est d'une part prévoir que la fiscalité sera prélevée sur les capitaux décès pour ne pas mettre les nus propriétaires dans une situation où ils ne touchent rien au décès, mais quand même qu'ils aient des impôts à payer. Et aussi faire très attention parce que lorsque le contrat va se dénouer, au fait, c'est des sommes d'argent qui vont être versées. Et lorsqu'on a un démembrement sur des sommes d'argent, et c'est ce qu'on appelle un quasi-usufruit, c'est versé directement à l'usufruitier. Et donc, l'usufruitier, lui, il pourrait quelque part dépenser l'intégralité de la somme. C'est pour ça qu'il faut aussi mentionner les règles de est-ce qu'il faut fournir des garanties ou pas, est-ce qu'on indexe ou pas cette fameuse somme.
Et alors, comme on rentre là dans des clauses bénéficiaires qui sont particulières et qui doivent être très, 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 très précises, on rappelle que parfois, l'assureur est un peu timide, réservé, oui. Prudent et qui dit « Oh, cette clause, je suis pas bien sûr de l'accepter ». Dans ces cas-là, on peut passer outre, entre guillemets. On peut rédiger ça avec son notaire, avec son conseil et dire dans le contrat, la clause bénéficiaire est déposée à tel endroit.
Oui, tout à fait.
Et comme ça, on passe outre les réserves éventuelles de l'assureur. On est d'accord.
Alors maintenant, ça commence à être de plus en plus courant, mais c'est vrai que les assureurs peuvent parfois... Enfin, c'est leur rôle. Hein. C'est eux qui doivent exécuter. Donc, si vous voulez, c'est normal qu'ils prêtent beaucoup d'attention à la rédaction de cette clause bénéficiaire. Mais en effet, pour contourner cette difficulté,
la prudence, parfois,
on peut déposer chez un notaire la clause bénéficiaire.
Merci beaucoup, Taline Melkonian, donc, et De Grove Petercam pour clore ce dossier Assurance Vie cette semaine dans Cœur.